Game Radio.
Vous écoutez Game Radio.
Game Radio.
La radio 100% jeux vidéo.
Dontonchat.com. Pourquoi dontonchat.com? Je pense que t'as deviné.
Non.
T'as pas deviné?
C'est pour pas dire oui, c'est l'opposé de dans ta chatte, quoi.
Non.
Non, je sais pas.
Oh là là.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Game Radio avec aujourd'hui encore une nouvelle formule, une nouvelle recette d'émission histoire de casser un peu les habitudes à l'avenir. Game Radio vous proposera, essaiera en tout cas de vous proposer tous les vendredis une sorte de rétrospective de l'actu vidéoludique de la semaine. On va donc revenir sur les grands titres qui ont fait la une des flashs sur Game Radio, histoire d'approfondir certains sujets et de faire le point sur cette information vidéoludique en perpétuel mouvement. Ça nous fera pas de mal de marquer un petit temps d'arrêt hebdomadaire. Alors je ne serai pas seul dans cette émission, il y aura systématiquement avec moi des membres du staff Game Radio, des rédacteurs de sites consacrés aux jeux vidéo ou pourquoi pas des joueurs. Eh bien aujourd'hui nous serons trois. J'espère un petit peu plus de monde autour de la table pour revenir sur cette actu de la semaine. Je suis en compagnie de Shoham. Bonsoir, oui. Shoham.
Bonsoir.
Voilà, c'est ta première pour toi, je crois, un podcast Game Radio.
Tout à fait, c'est ma première et j'espère pas la dernière quand même.
Non, je ne pense pas non plus. Essenix est là lui aussi.
Bonsoir.
Bonsoir Essenix, comment vas-tu?
Très bien, et vous?
Eh bien écoute, ça va. On devait aussi avoir avec nous Maxou qui en fait a préféré aller manger un petit morceau au restaurant. Donc Maxou, je te salue et je te remercie. Non, je plaisante, il s'est excusé. Il a tenté de me joindre sur Skype, puisqu'on est sur Skype avec son iPhone. On a essayé et c'était pas terrible. L'iPhone sur Skype, ça le fait pas vraiment, donc tant pis. Peut-être qu'il nous rejoindra dans la soirée, qui sait. Et Rio, qui devait être avec nous, enfin moi j'espérais qu'il sera avec nous. On l'a vu apparaître sur Skype, hein. Rio, si tu nous écoutes, on t'a vu apparaître subrepticement. T'es sans doute.
Tu t'es enfui,
voilà, tu préfères jouer. Eh ben écoute, tu as bien raison, je te rejoindrai juste après sur le live. Donc, ben on va décrypter ensemble l'actu de la semaine et. Avant de commencer, je propose qu'on commence par l'actu Game Radio, puisque cette semaine, Game Radio a connu deux événements. Game Radio a accueilli un nouveau chroniqueur, Shoham.
Ouais, c'est moi.
Voilà, c'est toi. J'aimerais qu'on profite de cette émission pour faire, pas forcément connaissance avec toi, mais en savoir un petit peu plus, en tout cas, sur ce que tu vas peut-être apporter à Game Radio à l'avenir. Oui. T'as commencé fort avec, c'est pas vraiment un test, une preview, je sais pas comment on peut l'appeler, consacrée à...
Les premières impressions, en fait, du bêta test de Champions Online. Je pensais que c'était quand même important d'en parler, puisque il va sortir normalement demain. Je voulais déjà commencer à en parler pour déjà tenter certaines personnes qui voulaient y aller. Et je pense qu'ils peuvent y aller les yeux fermés parce qu'il est vraiment, vraiment très, très sympa.
Voilà, bah, il suffit d'aller écouter ta preview, ton test. Tu as participé à la bêta, donc tu sais de quoi tu parles. Hein, et c'est vrai que ton avis était très positif. En plus, c'est un très bon boulot. L'enregistrement que tu as fait est très clair, très agréable à écouter.
Ce n'est que le premier.
Voilà. Et je peux te dire ce soir que tu as bien fonctionné. Ton podcast a été beaucoup écouté. Il fait partie des podcasts les plus écoutés de Game Radio. Donc, c'est déjà un succès et je te félicite. Donc, tu vas t'occuper plus particulièrement de la tranche entre guillemets PC sur Game Radio. Oui. C'est plus ton domaine.
Ça me manquait en fait. Je pense que pas mal de joueurs PC devaient se poser des questions quant à vraiment l'actualité que PC, alors qu'il y avait beaucoup de consoles, que je trouvais que c'était important d'en parler.
Et bah, tu as bien raison. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que dans un podcast, j'avais passé une annonce comme quoi je cherchais une blonde à forte poitrine, que ça m'intéressait et que. Juste après ça, j'ai eu ton mail qui me proposait éventuellement de participer à l'aventure Game Radio. Et voilà, je pense que tu t'es senti concerné. Est-ce que tu es blonde à forte poitrine?
Malheureusement, mais je peux toujours présenter quelqu'un si tu veux.
Non, ça ira. Très bien. Tu m'attends. Autre événement, bah oui, Essenix aussi qu'on accueille tranquillement finalement, qui commence à faire partie de Game Radio petit à petit. Hein, ça fait déjà deux podcasts auxquels tu participes.
Eh ouais, mine de rien, déjà deux.
Mine de rien, voilà. Donc j'ai pas encore officialisé, tu n'es pas encore intronisé dans cette secte Game Radio. Tu ne fais pas partie du staff officiel, mais ça ne saurait tarder, je pense. Voilà. Donc ça c'est pour la première nouveauté, la première info Game Radio. La deuxième, cette semaine, on a mis en place un concours en partenariat avec le Festival du jeu vidéo pour gagner des entrées pour le festival. festival justement. Alors rapidement, je rappelle qu'il suffit d'écouter Game Radio pour gagner votre entrée et il reste encore 3 de ces entrées à gagner. Il y a un message qui est diffusé aléatoirement sur l'antenne. Si vous tombez dessus, vous envoyez un mail et si vous êtes le premier à nous donner l'heure exacte de diffusion de cette annonce à l'antenne, bah vous gagnez une place. Il en reste 3, alors bien entendu, elles sont pas diffusées forcément tous les jours et toutes les heures, mais voilà, dans les 15 jours qui viennent, restez vigilants, écoutez Game Radio, vous pouvez gagner votre entrée. Voilà, ça c'est
fait. Je voulais rajouter, en fait, faut dire aussi que Game Radio sera présent durant le festival.
Oui, c'est vrai.
Parmi les premiers, en fait, à rentrer dans le festival. Donc.
Alors, on n'en a pas parlé encore avec Shoham, puisque c'est Shoham, peut-être d'autres, hein, s'ils le peuvent, qui vont se rendre au sein du festival du jeu vidéo, et je pense qu'on essaiera de faire un truc en direct, sur place, un fil rouge toute la journée, depuis le festival, avec Shoham, n'est-ce pas?
Oui, bah, tout à fait.
Voilà, je ne sais pas, on n'en a pas parlé avant, on devait le faire.
Non, on va en parler maintenant. On va essayer de faire ça,
Il faudra d'ailleurs que tu me donnes ton numéro de téléphone pour qu'on puisse se contacter, ça sera plus simple.
Ah oui, déjà, oui.
Alors, le top, ce serait que tu puisses, on va pas faire ça maintenant, c'est pas le moment du tout. Mais, on en reparlera juste après, justement. Et dans tous les cas, il y aura du festival du jeu vidéo à 100% sur Game Radio, c'est sûr. Très bien.
Ça, c'est sûr.
Donc, je crois qu'on a fait le tour des news Game Radio. On va passer donc à l'actualité décryptée, l'actualité de la semaine. Je propose qu'on commence avec une des premières infos qui a été diffusée dès lundi sur Game Radio, en tout cas dans le flash de midi. Il s'agissait de Batman Arkham Asylum qui rentrait dans le Guinness Book des records.
On commencera ce flash d'infos avec une nouvelle fois le jeu Batman Arkham Asylum. Le titre vient de sortir et vient aussi de rentrer dans le Guinness Book des records. Le blockbuster est en effet le jeu de super-héros le mieux noté de tous les temps. Après un rapide calcul, il s'avère que le jeu obtient une moyenne générale de ses notes de 91,67%.
Le jeu a fait l'unanimité, réellement, hein, auprès de la critique spécialisée. Ce cumul de notes qui donne cette moyenne de 91,67% était calculé sur les tests papier et numérique du monde entier. C'est assez énorme. Hein. Même, je pense que pour un jeu qui aurait pas été forcément un jeu consacré aux super-héros, ça aurait été énorme. Alors moi, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'occasion de jouer encore réellement à Batman Arkham Asylum. J'ai tâté de la démo. J'avais déjà été très impressionné. C'est vrai que c'est un des jeux que j'ai en ligne de mire. C'est un des jeux auxquels je vais jouer. Je comprends tout à fait les notes. Est-ce que vous êtes aussi optimiste?
Moi je l'ai pas encore joué effectivement parce que moi j'attends avec impatience la version PC évidemment.
Sur PC a priori les graphismes vont être exceptionnels. Je
tout
sais
tout à fait.
Plus
c'est pour ça que j'attends sur PC parce qu'il y a le moteur physics de Nvidia qui va tourner dessus et j'ai vu les premières vidéos, c'est assez hallucinant, assez impressionnant au niveau donc des explosions, au niveau des détails
des particules, etc.
C'est assez impressionnant. Je crois qu'ils ont vraiment fait un gros boulot. Je comprends qu'ils sortent un peu plus tard, même si on a toujours l'impression en fait que le PC est un peu la cinquième roue du carrosse. Tous les jeux sortent bien bien après version console.
Oui, d'ailleurs,
et
ça
finalement,
c'est...
j'en parlerai après, mais on a quelques avantages quand même.
Un mal pour un bien quelque part.
Ouais, on peut en parler tout de suite quelque part. Oui, voilà, sur le coup, c'est clair déjà qu'on voit que Batman Arkham Asylum est une tuerie sur console. On peut imaginer que sur PC, effectivement, ça va être énorme. Étrangement, c'est vrai que il y a quelques années encore, les jeux PC étaient ensuite adaptés à la console. On arrive un petit peu sur quelque chose qui fonctionne à l'inverse de ça aujourd'hui. On a pas mal de jeux qui sortent sur console qui sont ensuite adaptés sur PC. On le voit même avec Red Faction Guerrilla.
Tout à fait.
Voilà.
En fait, je pense que la tendance a évidemment été marquée par Microsoft qui a commencé à être constructeur de consoles. Étant constructeur de consoles, donc ils veulent vendre bien sûr leur machine. Et comme ils avaient donc le parc Windows sur les PC, ils ont un petit peu le monopole sur les jeux PC. C'est que sur Windows qu'on fait pratiquement tourner tous nos jeux. Donc évidemment, il est évident que la plupart des jeux doivent être d'abord vendus sur le parc de consoles Microsoft pour après être adaptés sur PC. Le cas plus flagrant, c'est quand même Halo. Mm-hmm. On n'a toujours pas Halo 3 sur PC.
Ah ouais, clairement.
Oui, je crois que le 2 est arrivé 2 ans après, le premier n'en
ouais,
parle
voilà,
pas.
Ouais,
le 1 est sorti au moment de Halo 2 et Halo 2 est sorti au moment de Halo 3. Voilà, pour donner
un on n'a plus qu'à attendre Halo Reach, quoi, sur la Xbox.
Ouais, exactement. Donc bon, c'est vrai qu'on se sent un petit peu lésé. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que sur certains jeux, on a finalement tous les bonus que les consoleux achètent en premier. Nous, on les a après dans des packs tout complets. Mm-hmm. Je prends par exemple Mass Effect, le DLC, on l'a eu gratos. Je prends Fable, le premier Fable, on a eu Fable Lost Levels, tout complet, pratiquement, quoi, vraiment à un prix dérisoire. Quoi.
On peut parler aussi de Left 4 Dead. Hein.
De Left 4 Dead.
Voilà, j'y avais pensé aussi, mm-hmm. ouais.
Et justement, tu parlais de Red Faction.
J'allais y venir aussi.
Bon voilà, on a le pack complet sans avoir à acheter, à débourser plus d'argent.
Oui, c'est un moindre mal finalement, puisque vous avez quand même le retard de la sortie, donc c'est un moindre mal quelque part.
Et, tout à fait, et je pense aussi, là je pense tout de suite à Force Unleashed, le pouvoir de la force, où on a tout de suite le pack, le site édition, alors que ça fait à peu près 2 ans qu'on attend le pouvoir de la force. Moi d'ailleurs j'ai craqué, j'ai acheté le jeu sur Xbox.
Alors j'ai une question, toi qui es joueur PC, je te tiens, j'en profite, et qui a l'air de pas forcément jouer qu'à des MMO. Moi c'est vrai que la plupart des joueurs PC, même moi, qui, quand j'ai joué sur PC, c'était à certains types de jeux, plutôt des RPG. En général, on a la souris, le clavier ou les FPS. Hein. Comment est-ce qu'on joue, par exemple, à Batman Arkham Asylum ? Je pense qu'on va utiliser une manette qui va ressembler à celle d'une console aujourd'hui.
Absolument pas. On joue complètement entièrement à la souris et au clavier.
D'accord, ok.
On joue toujours avec le combo, et je crois que c'est le meilleur combo qui puisse exister. Pour moi, je trouve que c'est le meilleur combo qui puisse exister en niveau en termes de jeu, en termes de FPS, en termes.
C'est une grosse question de noob là que j'ai posée.
Ah, mais, là, bon. Moi, par contre, là, je partage un petit peu. Enfin, je suis pas complètement d'accord avec toi. Enfin, en tout cas. Bon, pour les FPS, ça c'est indéniable. Ça, c'est sûr que le combo clavier-souris, ça c'est vraiment, c'est un des débats quand même, hein, au final.
C'est un débat intéressant effectivement, mais ce n'est pas appliquable sur tous les jeux.
Ouais, mais qui pourra faire l'objet d'une émission, je pense, en lui-même, ce débat-là. Ah, par contre, en gros, ce que tu nous disais, Scénic, c'est que toi, finalement, un jeu comme Batman sur PC, hein, je parle sur PC, tu aurais tendance à utiliser une manette.
Bah. Faut voir après comment il adapte en fonction, enfin pour le clavier, etc. Si c'est bien fait. Moi, je me verrais quand même plus jouer avec une manette. Clairement,
après, c'est certain que
ça serait la manette.
Moi, je comprends tout à fait que l'un des atouts aussi du PC, au-delà des capacités techniques, c'est peut-être le fait effectivement de pouvoir utiliser une souris et la précision qu'on lui connaît et le clavier avec toutes les capacités, toutes les possibilités que ça propose aussi.
C'est exactement ça, parce que moi, j'ai testé la démo effectivement sur PC, ce qui est une tuerie, c'est quand même 2 Go, hein, ce qui est quand même pas mal. Et j'avoue que j'ai testé clavier, le combo clavier souris, et j'étais pas du tout dépaysé, et j'étais même complètement dans mon élément. Quoi. Donc,
en tout cas, il se peut bien que ça fasse l'objet du prochain The Émission sur Game Radio, cette histoire de PC d'un côté, console de l'autre et les différences de jouabilité, notamment en matière de FPS par exemple. Ça pourrait être assez intéressant. Là, c'est un gros débat. Ouais.
Ça, je peux te dire que moi, FPS console, je n'arrive pas du tout à jouer.
Mais on en parlera l'occasion de l'émission en question. On se met ça sous le coude pour plus tard. On va revenir donc à notre fil d'info de la semaine. On est toujours sur le lundi 31 août. Game Radio a annoncé que sur PSP Go, Sony allait faire une lutte impitoyable contre les pirates.
Sony souhaite en effet ne pas connaître les mêmes problèmes que sur PSP, la portable étant en effet particulièrement facile à contourner. Pour éviter de connaître les mêmes déboires avec sa prochaine machine, Sony a décidé dans un premier temps de rendre inamovible la batterie de la PSP Go.
Alors, il faut savoir que cette histoire de batterie amovible, en ce qui concerne la PSP d'origine, enfin, celle qu'on connaît aujourd'hui, c'était une des premières possibilités pour détourner la console, pour pouvoir y installer des homebrew et des jeux piratés ou des émulateurs. C'était ce qu'on appelait le système de la batterie Pandora. Est-ce que c'est un système que vous connaissez, cette histoire de batterie Pandora ? Est-ce que selon vous, effectivement, Sony, avec ça, en ayant une batterie qu'on pourra pas changer, enlever de sa console, va réussir à résoudre son problème de piratage sur sa portable ?
Bah, pour moi, personnellement, j'ai une PSP et craqué. Avec ce système.
Il va falloir que je fasse un montage là, c'est pas possible. Sinon, on va voir. Sony va nous tomber dessus.
Ils aiment bien.
Là, je crois qu'on a fait
légèrement une boulette, détourné, enfin, bon. On va dire, avec ce système de Pandora batterie. Sony a comblé ses failles en fait au niveau des jeux avec les mises à jour des firmwares qui venaient de temps en temps. Et ce qui a incité finalement à recourir à une seule méthode, c'était la Pandora batterie, qui était vraiment la seule méthode qui marchait. Bon, après.
Explique-nous un petit peu la méthode, sans donner le truc aux gens, mais.
T'avais juste la batterie de base que t'avais avec la PSP, et tu devais juste installer, en fait. Bon, t'avais le besoin d'une PSP d'un copain à toi qui était déjà, en fait, détournée.
D'accord.
Pour faire marcher la batterie, sinon tu pouvais pas.
Ok.
Donc, déjà, c'était pas extrêmement simple à réaliser. Donc, là, déjà, s'ils enlèvent la batterie dans la PSP Go, c'est vrai que c'est. C'est une défense en plus contre le détournement.
Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'autres manières de pouvoir détourner, en tout cas bidouiller ta PSP, puisque moi j'en ai connu d'autres. Donc je pense pas qu'ils vont réussir à lutter contre le piratage avec ça. Pour moi, je pense que le vrai souci, c'est que dans mon souvenir, la PSP avait pas une autonomie énorme. Alors je sais pas ce qu'ils ont prévu pour la PSP Go. Je pense qu'elle sera peut-être un petit peu plus puissante à ce niveau-là, mais le fait de pouvoir remplacer sa batterie était quand même une bonne chose, éventuellement aussi par rapport à une batterie abîmée. Une batterie, ça s'use, ça se remplace. Donc là, pour moi, il y a une vraie question à ce niveau-là.
Finalement, les bons payent pour les mauvais, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, si tu veux changer ta batterie, tu dois la renvoyer à Sony, enfin, c'est très compliqué. Et de pas avoir de batterie amovible juste parce qu'il y a des pirates qui
réussiront de toute façon à contourner la PSP Go.
Ouais. Le truc, c'est un petit peu c'est un peu la langue de bois, je trouve, de la part de Sony, parce que.
Alors, à mon avis, ça cache autre chose. Je pense que si Sony allait décider de pas rendre sa batterie amovible, il y a une autre raison, à mon avis. Laquelle, je la connais pas.
Non, non plus, mais
Mais il doit y avoir autre chose derrière, c'est obligé.
Ça fait des années, et d'ailleurs, je crois qu'en plus, les pontes de Sony, on clairement dit que le fait que la PSP était facilement piratable a pas mal contribué à l'achat de la console. Ils l'ont dit, hein.
On en parlait un petit peu dans la dernière The Émission. Oh, c'est une émission référence, ça, c'est pas possible. On parlait justement de la guerre des consoles et on a dit à un moment que, effectivement, une console piratable était une console qui avait plus de chances qu'une autre de réussir.
Tout à fait. Mais ça, maintenant, avec la PS3, c'est les choses ont un peu évolué. Mm-hmm. Je sais pas trop quelle est la volonté de Sony.
Le fait que la PSP Go soit justement basée que sur la dématérialisation, puisqu'on n'aura plus de UMD, on aurait pu penser justement qu'avec une plus grosse capacité de stockage de données, ça allait être la console parfaite pour l'émulation, les homebrews, le piratage, ce genre de choses.
Oui, je pense qu'ils vont réussir à trouver un autre moyen. Les pirates sont assez compétents. Et puis surtout, en plus, maintenant, ils commencent vraiment à bien maîtriser la machine, ce qui n'était pas le cas quand la console était sortie.
C'est une annonce en tout cas qui a dû bien faire rire la plupart des pirates et des personnes qui connaissent ce domaine, parce que
je pense que c'est plutôt du challenge qu'ils leur ont donné là.
Ouais, sans doute, ouais. Bon, allez, on va continuer, on passe au mardi 1er septembre. J'avais annoncé sur Game Radio la sortie d'une espèce de compilation God of War Collection qui va arriver sur PS3, et finalement dans la semaine on a appris que cette compilation n'arriverait pas en Europe.
En attendant le prochain opus de la série, vous pourrez très prochainement découvrir ou redécouvrir les deux premiers volets dans une sorte de compilation intitulée God of War Collection. Dans cette version PS3, les deux jeux sortis précédemment sur PS2 seront optimisés pour la console Next Gen de Sony.
Dommage, c'est une compilation qui va regrouper God of War 1 et 2 avec des graphismes améliorés. C'est plus qu'il y avait d'autres. L'HD.
Oui, il sera en 720p natif, apparemment, le jeu en lui-même.
Voilà, c'est ça. Et donc, j'avais annoncé que ça arrivait en Europe. Ça n'arrive pas en Europe, finalement. Ça sortira sans doute qu'au Japon et peut-être aux États-Unis. Donc, dommage.
Pas avant 2010. C'est-à-dire qu'en fait, il va sortir l'année prochaine.
Ah, mais ça, on sait même pas, a priori. Puisque God of War 3 est prévu aussi l'année prochaine, il faudrait qu'il sorte avant God of War 3 pour avoir.
Ou peut-être qu'ils vont faire
un pack.
Comme ils ont peut-être voulu un petit peu copier nos amis de chez Nintendo en sortant les trois en même temps, c'est-à-dire comme Metroid Trilogy, ils vont sortir God of War 1, 2 et 3.
C'est marrant parce qu'effectivement j'ai pensé à Metroid Trilogy à ce moment-là.
Qui est sorti d'ailleurs, qui est en magasin.
C'est vrai que le Blu-ray pourrait le permettre justement grâce à l'espace de stockage que contient le Blu-ray. Après, est-ce que c'est la bonne idée?
Ah bah attends, regarde, ils ont bien réussi à mettre 3 Metroid sur un CD classique.
Ah, c'est pas contraire, non, mais c'est pas ça, c'est le fait, est-ce que c'est une bonne stratégie au niveau du marketing? J'en suis pas convaincu, après...
Bah si, ressortir deux anciens jeux, enfin comme God of War, qui sont quand même des jeux cultes.
Oui.
C'est pas des mauvais jeux.
Loin de là. Donc les ressortir, effectivement, pour ceux qui sont passés à côté, c'est l'occasion de s'y remettre. En plus, je crois que le prix, elle est dérisoire. Peut-être $40, je sais plus. C'était un prix vraiment intéressant. Donc c'est vraiment, moi je trouve dommage que ça sorte pas justement là pour les fêtes. Mardi, j'avais titré en attendant God of War, en me disant voilà, en attendant la sortie de God of War 3, qui à mon avis va être un très très bon jeu aussi, hein, de ce qu'on a vu là le 3.
Ah oui, ça sans
critique. C'est super prometteur. Je me suis dit, voilà, en attendant celui-là, on va pouvoir se replonger dans God of War 1, God of War 2, qui sont aussi des références. On passe à côté. Mais effectivement, comme l'a dit Shoham, ça sortira en 2010, peut-être, chez nous. Je crois que la PS3, on peut pas lire de jeux...
PS2.
Non, pas PS2, c'est pas ce que je voulais dire. Oui, ouais, si, c'est vrai, en plus, on peut plus.
Sauf les premières générations.
Voilà, sauf les premières. Et la Slim, encore moins. On peut pas lire de jeux import, enfin, je veux dire, de jeux sortis au Japon, si je ne me trompe pas.
Je peux pas confirmer.
Si, la PS3 est dézonée, donc du coup, tu peux lire les jeux qui
sont...
Écoute,
je sais pas, parce que depuis le dernier firmware, je crois que c'est fini, ça.
Ah.
Ouais, depuis le firmware 3.0, j'ai un doute aussi, parce qu'on en a parlé, voilà, c'est pour ça que je regrette que Ryu ne soit pas là. Il nous a dit, maintenant on pourra plus lire les jeux japonais, enfin les jeux étrangers sur nos consoles à cause du firmware 3.0.
Ça c'est bien con, ça, par contre, parce que auparavant, par exemple, on pouvait acheter le Blu-ray de Final Final Fantasy Advent Children et se taper la démo de FF13 en import, quoi, du coup. Et là, bah, c'est dommage, quoi.
En même temps, d'avoir dézoné, le fait de dézoner des jeux, c'était une tendance à un moment et une époque. Tu pouvais pas jouer à des jeux américains, japonais, et qui valaient d'ailleurs une fortune à l'époque. Et en fait, la tendance a été un petit peu modifiée, c'est avec les dernières consoles next-gen, où finalement, tu pouvais acheter des jeux... En fait, tu pouvais payer des jeux moins chers en l'achetant aux États-Unis ou au Japon. Alors que c'est exactement l'inverse, il y a quelques temps, où tu payais 1000 euros, 1000 francs.
Sur 360, j'achète parfois des jeux qui sont des jeux prévus, par exemple, pour l'Asie, mais qui sont multi-territoires, je sais plus exactement le terme, qu'on paye effectivement moins cher, on va le payer 30 euros au lieu de 70, et qui fonctionne très bien. Le dernier Viva Pinata, par exemple, je crois que je l'ai acheté une trentaine d'euros, et il est traduit en français.
Parce que c'est québécois, enfin, c'est pour le...
C'était pour la Corée, si je me trompe pas, enfin, pour un pays.
Ah bon, d'accord.
Non, oui, mais c'est la même version pour tous les pays. Non, ouais. Enfin bon, voilà. Allez, on va continuer notre tour d'horizon. Mardi 1er septembre, toujours, j'avais parlé d'Activision Blizzard.
Activision Blizzard, qui, contrairement aux autres acteurs de l'industrie des loisirs vidéoludiques, ne semble pas souffrir du contexte économique difficile de ces derniers mois. L'évolution récente du chiffre d'affaires de la société révèle en effet des résultats supérieurs aux attentes.
Ces derniers temps, donc, la plupart des éditeurs et des constructeurs aussi de consoles ont fait le point sur leurs finances, on va dire, et c'est pas glorieux d'une manière générale. On avait le sentiment que ces derniers mois, ces derniers trimestres, tout se cassait un petit peu la gueule à ce niveau-là. Et il se trouve que pour Activision Blizzard, c'est pas le cas. Je crois que le chiffre d'affaires est plutôt positif, en augmentant.
Si je peux me permettre, en fait, justement, j'avais préparé des petites notes par rapport à Activision Blizzard et le comparatif avec justement Take-Two, qui avait donné, lui par contre aussi, son bilan.
Permets-toi des chiffres, on en veut.
Et en fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi Activision Blizzard était passé numéro 1 déjà devant Electronic Arts, et pourquoi Take-Two, qui était hyper en vogue, je crois, il y a à peine 2 ans, se retrouve cette année complètement à la ramasse.
Alors moi, de ce que je sais, c'est qu'Activision Blizzard réussit à être comme ça un des premiers éditeurs, je crois que c'est même le premier, hein, je sais plus.
C'est le premier éditeur,
voilà, ouais, grâce, mais il faut voir qu'il y a quand même World of Warcraft derrière, Call of Duty, Guitar Hero, qui sont quand même des licences énormes. Les trois ensemble, ça devient un truc de dingue.
Ce sont les trois licences, en fait, qui font marcher complètement Activision Blizzard. C'est bien sûr World of Warcraft qui est le numéro 1, pas dire même toute console et toute PC confondue, puisque déjà il génère un trafic énorme, je sais pas si on imagine, mais 11 à 12 millions d'abonnés.
C'est vrai que c'est conséquent, quoi.
Voilà, je pense que c'est le rêve de tout éditeur de pouvoir générer de tels abonnements.
Sachant qu'Activision Blizzard apparemment fait des prévisions au niveau de son chiffre d'affaires extrêmement positives pour lui. Ils sont dans la progression la plus complète en matière de finances, apparemment.
Ah, bien sûr, tu sais qui est derrière Activision Blizzard, c'est Vivendi, qui est un groupe français.
Ouais.
Corico quand même, et je rappelle quand même, il y a quelques années, a été au bord de revendre sa branche jeu, et qui ne l'a pas fait, et heureusement pour eux, parce que finalement ils s'en sortent plutôt bien. Et donc ils ont racheté bien sûr Blizzard, et Vivendi avait Blizzard, et puis après ils ont racheté Activision, et là ça a été le coup de grâce pour les autres éditeurs, quoi. Ils marchent sur des firmes très grosses comme Call of Duty, qui est le leader en termes de jeux de...
Non, mais ce qui est assez intéressant les concernant, c'est que par rapport à leur... c'est pas leur concurrent, mais les autres éditeurs, on l'a vu, effectivement, il y a eu l'été, il y a pas beaucoup de sorties pendant l'été, le début d'année a été un petit peu frileux, il y a pas eu d'énormes sorties, alors on sait que les plus grosses sorties arrivent, là, on va avoir une fin d'année exceptionnelle. Malgré ça, Activision Blizzard est un des seuls, malgré lui-même, a pas sorti beaucoup de jeux. Malgré cela, il a continué à grimper, à monter, et alors on peut imaginer ce qui va se passer en fin d'année avec le prochain Call of Duty qui arrive, l'extension de World of Warcraft, ça va être...
Et Guitar Hero 5.
Guitar Hero 5 qui déboule.
L'extension, il sortira pas avant l'année prochaine.
Il y a une mise à jour de World of Warcraft.
Il y a des mises à jour, mais ça va pas générer.
Ah, elle est conséquente, je crois.
Mais oui, elle est conséquente, effectivement, mais je pense pas que ça fera rameuter du
jeu. Ouais, c'est vrai que je pense pas que une simple mise à jour peut faire acheter complètement le jeu.
Non, je pense pas. Je pense qu'effectivement.
Ça peut par contre donner une nouvelle vie au jeu. C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir beaucoup joué à World of Warcraft, qui en a peut-être eu un peu marre, qui a laissé son abonnement de côté, peut revenir sur le jeu parce qu'il sait que le territoire va changer complètement. Que ça
là, c'est l'extension.
Oui, je suis sur l'extension, je fais un gros mélange. Merci. Oui.
Voilà, l'extension Cataclysme, effectivement, va ramener certainement des anciens joueurs qui veulent revoir le monde qu'ils avaient connu avant.
Voilà, avec des nouvelles, les gobelins et tout ça en plus.
Voilà, j'en serais presque le premier à y aller, mais bon, ça je dirais pas plus. Mais j'en reparlerai, je pense, de Cataclysme dans une chronique plus tard. Mais voilà, je pense qu'il marche beaucoup grâce à cette licence World of Warcraft. Donc on a dit Call of Duty et Guitar Hero, toute la licence en fait en elle-même, puisqu'il y a DJ Hero qui va sortir là fin d'année.
Qui annonce très très bon, hein,
DJ Hero. Qui annonce très très bon. J'ai eu des gens qui l'ont vu et qui m'ont dit qu'il était vraiment très sympa à jouer. Tu te prends vraiment pour un DJ, quoi. D'ailleurs, on le verra au festival du jeu.
Oui, ouais. Bah tu nous le testeras. Voilà, avec Maxou, hein, qui sera aussi là-bas normalement. On va continuer notre petit tour d'horizon de l'info de la semaine. C'était le 2 septembre. Ouais, pardon, vas-y.
Ouais, j'ai oublié de parler de Tech2 parce qu'on va en parler à l'heure.
Oui.
Alors pourquoi Tech2 cette année?
Je sais pas
année,
si on va en parler tout à l'heure.
Parce que si, on va en parler parce que t'en avais parlé.
On peut en parler si t'as envie d'en parler.
Non, mais c'est vrai. Non, en plus, t'en as parlé dans un flash info que Tech2 en fait c'est un peu a pas vraiment beaucoup marché. Alors j'ai un petit peu cherché pourquoi. Tout simplement parce que leurs trois grosses licences, qui est Max Payne 3 a été repoussé, Mafia 2 a été repoussé l'année prochaine. Et BioShock 2 a été repoussé aussi.
Ouais.
Donc ce qui fait qu'en fait cette fin d'année, en dehors de l'extension de GTA 4 qui va certainement cartonner sur 360, que sur 360, ce qui est assez important de le dire. Finalement, il n'y a pas y avoir grand-chose pour Tech2 cette fin d'année et cette année en général, quoi.
C'est bien que tu parles des reports. On peut en parler 5 minutes. C'est assez impressionnant le nombre de jeux qui étaient prévus d'ici la fin de l'année et qui sont reportés à 2010. Je crois que j'ai jamais vu ça.
Un tel point, je crois que on peut même dire que le début de l'année 2010 peut s'avérer vraiment peut-être meilleur que la fin d'année 2009.
Alors à mon avis, non, parce qu'il y aura à nouveau des reports. On peut pas sortir autant de jeux en même temps.
C'est
ça devient impossible.
Ouais, mais bon, t'aurais quand même Mass Effect 2, Splinter Cell, BioShock, etc.
Et finalement, notre fin d'année 2009 sera moins riche que peut-être le début d'année 2010, effectivement.
Oui, parce qu'en fait, ça, c'est pour la plupart, c'est des raisons économiques. C'est pour ça qu'il y a autant de reports. C'est tout simplement parce que les éditeurs veulent passer tous leurs meilleurs titres sur l'année 2010, qui sera bien meilleur pour eux, étant donné que cette année, c'était la crise, c'était catastrophique pour eux.
Donc, un mal pour un bien.
Voilà, un mal pour un bien, parce que finalement, ils veulent avoir de meilleurs résultats pour l'année 2010-2011. Ubisoft, c'est le cas. Splinter Cell ne sort que l'année prochaine pour des raisons économiques et pas forcément des raisons de développement. Ce qui est aussi le cas pour Tech2 aussi, très, très certainement. Ubisoft aussi a pas mal de gros titres qui ne vont pas sortir cette année. Splinter Cell, tu as Red Steel 2. Ghost Recon. Tu as Red Steel 2. Puis c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. On continue notre petit tour d'horizon, hein, histoire d'avancer un petit peu, parce qu'il reste pas mal de choses à dire. Le 2 septembre, toujours, j'avais parlé de la prochaine Video Games Live.
Tommy Tallarico et Jack Wall, les créateurs du célèbre concert 100% musique de jeux vidéo, vous proposent carrément de participer à leur prochain spectacle. Un concours vient d'être lancé, il s'agit d'interpréter un morceau issu d'une liste prédéfinie, bien entendu le thème d'un jeu vidéo. Vous l'interprétez avec l'instrument de votre choix, filmez-vous et déposez votre vidéo sur Dailymotion avant le 21 octobre. L'interprète sélectionné aura la possibilité de monter sur la scène du Palais des Congrès et pourra interpréter son morceau lors du prochain Video Games Live le samedi 21 novembre.
Je sais pas si vous connaissez ces concerts 100%. Ah ben ça tombe très bien. Ah voilà. Ah super. Moi j'ai pas eu la chance d'y aller. Je connais très bien parce que c'est le genre de choses qui me fait baver, mais j'ai jamais assisté à un seul de ces concerts cette année. Alors c'est suite à ils ont fait ça en fait au Japon, ils ont fait un concours qui a permis à un certain Martin Leung de monter sur scène pour interpréter un morceau. En fait voilà, ils ont fait participer un illustre inconnu qui est monté sur scène et qui a donc joué au piano un thème issu d'un jeu vidéo. Et donc voilà, ils proposent cette année à un Français de participer, donc il y a un concours qui s'est mis en place.
C'est très très répandu ce genre de vidéo, le fait de pouvoir, moi d'ailleurs j'en ai écouté plusieurs, c'est très sympa, de s'enregistrer, en fait se filmer en train de jouer un morceau de jeu vidéo. La plupart c'est Zelda, Mario Bros.
Moi je suis en train de m'entraîner au pipeau, là je suis en train de rejouer les thèmes, le plus grand thème de Zelda au pipeau, enfin l'ocarina, mais j'avais pas d'ocarina, donc je le fais au pipeau.
Faut l'acheter iPhone avec l'ocarina là.
Je suis très fort au pipeau. Bon, ouais, tout à fait, effectivement, il y en a plein, donc on peut imaginer qu'il y aura certainement pas mal de participants.
Alors,
j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ces Video Games Live, justement. Quand on y est, qu'est-ce qu'on vit?
Alors, c'est très très fort, parce que déjà dès le début, il pose les marques en disant, ce n'est pas un concert comme les autres, c'est pas un concert classique, effectivement, il y a un orchestre, tout ça. Dans un concert classique, on se tait. Là, au contraire, si vous avez envie de crier, si vous avez envie de dire que vous êtes content, que vous voulez encore en entendre plus, il faut crier. faut mettre l'ambiance. Et ça, déjà, tu vois, ça commence déjà assez fort. Ensuite, d'entendre, en fait, les musiques de jeux vidéo dans une grande salle de concert qui est celle de la Porte Maillot, du Grand Palais des Congrès de Maillot. C'est assez impressionnant parce que finalement, c'est très fort avec tous ces joueurs, tous ces geeks réunis dans cette grande pièce, je veux dire. C'est très, très fort. Je crois que le moment le plus fort, c'était le moment où il nous a tous demandé de sortir nos téléphones portables, iPhone, DS, PSP, et de le mettre en l'air comme une bougie, c'est comme des flammes, et puis de chanter à tue-tête la musique de Mario, tu vois.
Ah ouais, d'accord. Fort. C'est un vrai truc de geek, drôle. En fait. D'accord.
Et en plus
ouais.
de ça, d'avoir tous ces gens qui font tout, comme ça, avec leur iPhone, les bras en l'air, c'est... Je trouvais ça absolument délirant et exceptionnel pour des joueurs. C'était assez fort. Et on sent vraiment la passion du jeu derrière ces musiciens et cet orchestre. Et
ouais, parce que ça mélange, donc il y a la musique, il y a quand même un visuel derrière. C'est du spectacle, hein, plus qu'un simple concert. Ouais.
C'est vraiment du spectacle et il y a vraiment une ambiance. C'est-à-dire que quand tu rentres, tu vois tous ces joueurs, tu les vois à leur tête que c'est tous des joueurs, tous des geeks. Et tu sens que vraiment... ils sont tous attentifs par la musique, alors que ce sont des jeunes, quoi. Vrai, les jeunes, ils
écoutent pas. En tout cas, cette année, ça aura donc lieu le samedi 21 novembre. Je crois que c'est plus de 4000 personnes qui sont attendues cette année, hein.
Fait du monde, quoi.
Ouais, il y a beaucoup de monde. Il y aura plus de 60 artistes, hein, orchestre et chœur, qui vont interpréter sur scène les plus grandes musiques du monde des jeux vidéo. C'est assez inédit, hein. En France, je crois qu'il y en a eu qu'un pour le moment.
Il y en a eu qu'un seul, c'était l'année dernière. Voilà. Et j'y étais, effectivement. Ce qui a pas mal rebuté les joueurs, c'était le prix. C'était le prix, ça allait de 48€ jusqu'à 100€, tu vois. Donc,
concert, finalement. Classique.
C'est une place de concert. C'est le prix. Tout à fait classique. Mais bon, les joueurs, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va mettre 48€ dans une place de concert?
Quand même, on ne compte pas.
Ouais. Non, mais on peut mettre 70€ dans un jeu PS3.
Ouais. Donc, tu vois, donc, c'est plus pour ça que les joueurs sont pas venus. Mais, vu le succès, je pense que ça peut encore attirer des foules, quoi.
Bon, on va passer une info un petit peu moins grandiose, on va dire, avec l'iPad en approche. L'iPad de Sony.
On a enfin une première date et un prix. Le Tamagotchi nouvelle génération de la PS3 est en effet annoncé pour le 17 novembre aux États-Unis. Le jeu devrait coûter une $40 seul. Un pack comprenant le PSI sera aussi disponible pour $20 de plus. Pour l'Europe, c'est encore très incertain, mais on parle d'une date de sortie envisagée pour le 23 octobre à confirmer.
L'iPad, je sais pas si vous en savez quelque chose.
Là, je vous parle ou pas,
moi, les jeux comme ça, ça me botte pas trop, tu vois, genre un petit peu.
Je vais essayer d'expliquer. Moi, j'en sais pas grand chose. Je vais essayer d'expliquer un petit peu à Shoham, qui a pas l'air de savoir du tout de quoi on parle quand on parle de l'iPad. Ça va fonctionner avec la caméra de la PS3. Grâce à ça, la petite bestiole t'as une interaction qui va être, à mon avis, assez loin de ce qu'on va réussir à obtenir avec le projet Natal, là, ce qu'on avait vu avec Milo. En fait, on va se retrouver dans l'écran, de ce que je sais, hein, je crois avoir bien compris ça, tu vois. Dire si je me trompe ou pas, SNX. On se retrouve filmé, donc on se retrouve dans l'écran et la petite bête est sur toi.
Oui, non, mais ouais.
Ou dans ta main, tu peux la caresser, machin.
De l'iToy, quoi, sur la PS2, c'est le. T'as la petite caméra qui te filme et puis. En fait, le jeu, en combinaison avec la caméra, arrive à détecter et à réagir en fonction de tes mouvements. Et donc, bah, justement, Sony, avec iPad, va utiliser cette caméra pour permettre aux joueurs d'avoir des interactions avec une sorte de Tamagotchi, comme tu disais.
Alors moi, les Tamagotchi, j'avais trouvé ça génial. J'avais 18 ans, un truc comme ça, quand c'est arrivé en France. On avait les petits jeux là, Tamagotchi, donc on lui faisait faire caca, pipi, on lui donnait à manger, c'était rigolo. Mais là, je sais pas, j'accroche pas du tout. Je sais pas si t'as vu la bestiole.
On est deux.
Moi, je sais pas.
Au moins.
On dirait Kiki. Je sais pas si tu te souviens de Kiki, le Kiki de tous les Kiki. Je parle pas d'un truc. Oui, les plus jeunes d'entre nous connaissent peut-être pas. Quoique, ça existe encore, le Kiki. Et c'est Nix, tu connais le Kiki?
Vous êtes trop jeune, c'est pas possible.
Bah, c'était une espèce de petit singe qui mettait le doigt dans la bouche.
Ah si, j'en ai un même.
T'as un Kiki?
Je savais pas que ça s'appelait Kiki.
Je savais pas que ça s'appelait Kiki, je me disais bien. Attends, le truc, il ressemble à un jouet que j'avais chez moi quand
Bah, c'est vrai qu'il ressemble à mon Kiki.
C'était un Furby que j'ai.
Ouais, ça ressemble un peu au Furby aussi, ouais. Ouais, c'est
horrible,
vrai.
Horrible truc qui parle quand t'as pas envie qu'il parle.
Ouais, bon voilà. Donc en gros, ce iPad ressemble un peu au Furby. Je sais pas quel public ça vise. À mon avis, les plus jeunes joueurs et plutôt le public féminin. Je pense que c'est un jeu qui peut plaire plutôt à ce public-là. Après,
public féminin qui a une PS3 avec Lightoy pour jouer à
iPad. Il y a pas beaucoup de monde. Ouais.
C'est plus la Wii qui serait plus dans ce genre de.
Ouais.
De
à savoir après que le prix de jeu devrait pas être excessif. Hein. Une quarantaine de dollars en tout cas pour les États-Unis. Donc ça fait quoi, un peu moins carrément 30€ en France. Et ce sera vendu en pack avec le PSI, donc la caméra. Pour une cinquantaine d'euros a priori, donc c'est très abordable.
Je suis pas persuadé du bon bienfait de ce truc là.
Non voilà. Pour
donner le big café.
Le problème.
The Judgment.
Oui en plus, mais là on en parle, mais le problème c'est que moi je me suis pas plus renseigné que ça aussi. Tellement ça m'intéresse pas. J'ai vu des vidéos il y a longtemps et voilà, j'ai juste pensé au kiki et point final. C'est pas aller plus loin.
Ah le kiki.
Voilà. Si je peux faire à la rigueur une transition par rapport à un autre jeu qui pourrait reprendre un peu le même principe, qui est beaucoup plus attendu et beaucoup mieux, c'est The Last Guardian, si t'en as entendu parler, c'est Nyx.
Non, mais alors par contre, là, le lien, faut que tu m'expliques.
Moi, ça me dit quelque chose, ouais, de non, ça va peut-être me revenir.
On a vu le fameux trailer où tu as un petit garçon qui doit utiliser en fait son familier, qui ressemble lui aussi.
Le projet Tricot.
Le projet Tricot, qui est The Last Guardian.
Ah, d'accord, voilà, c'est bon, ouais.
On a vu une vidéo, pour le moment, on a vu une vidéo donc avec ce petit gamin et avec cette énorme bestiole. Mélange, enfin espèce de griffon en fait, mélange de chat et d'oiseau.
Oui, bien sûr.
Donc c'est la team Ico, si je me trompe pas, qui développe.
Ah oui. La formidable team Ico.
Et là, par contre, je suis beaucoup plus emballé pour ce genre de projet.
Mais ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir, oui et non, parce qu'en fait, tu dois t'occuper de ta créature.
Ouais, je sais pas. J'avais l'impression que c'était plus ta créature qui allait t'aider et s'occuper de toi dans le jeu, je sais pas.
Oui, mais bon, si tu.
Mais je vois ce que tu veux dire. Enfin, le lien, ouais, voilà. Non, mais c'est pas évident de faire le lien entre les deux. Toi, tu as réussi.
Je sais pas, ouais,
je te félicite.
On peut faire le lien un petit peu. C'est vrai qu'avec un certain recul, un grand recul.
Moi, quand t'as commencé à parler de The Last Guardian, dire, oh, bah, ça tombe très bien qu'on parle de iPad, ça me permet de parler de The Last Guardian. J'ai eu du mal sur le coup. J'ai dit, comment il fait? Bon, je le laissais faire, mais là maintenant, pourquoi pas? Pourquoi pas. Bon, on continue, on passe au 3 septembre, ça se rapproche, c'est aujourd'hui, puisqu'on enregistre jeudi soir, donc on parlera pas des infos de demain, vous voyez. Ce matin, j'ai parlé de la PDC Touch. Après le kiki, on parle de la PDC Touch. Enfin bon.
Orientée jeune public, elle intègre toutefois pas mal de fonctionnalités que l'on retrouve déjà sur la plupart des consoles portables du marché. Sans rentrer dans les détails trop techniques, la PDC Touch Multimédia propose un lecteur MP3, un appareil photo, une caméra vidéo et une technologie sensitive pour des sensations de jeu encore plus réelles. On peut y jouer avec un stylet par exemple ou en bougeant la console. L'appareil est doté d'un écran en couleur LCD tactile de 3,5 pouces. Elle comprend 16 gigas de mémoire. Elle dispose aussi d'un lecteur de carte USB et de carte USB en marchant avec un
lecteur. La petite portable. Alors la boîte, c'est Videojet, je sais pas si vous connaissez, qui fabrique cette console. En fait, Videojet, ils font plus du jouet. C'est ces consoles qui étaient vendues dans les pages du magazine La Redoute et chez Toys R Us, qui sont des consoles qui essayent de reprendre un petit peu les fonctionnalités des consoles phares comme la PSP, la DS, et qui en fait sont des espèces de sous-clones. Et donc là...
Oui, sous-clones même.
Non, mais alors... tout à fait. Et là, ils sortent donc une nouvelle console qui va s'appeler donc la PDC Touch, et qui finalement, moi, me déplaît pas, que ce soit en termes de physionomie, je la trouve assez mignonne, et avec des fonctionnalités finalement multimédia assez proches des consoles les plus puissantes d'aujourd'hui, et on peut même parler de l'iPhone, parce qu'apparemment elle embarque un système de remote sensor, je sais pas quoi, là, qui permettra éventuellement de capturer le mouvement, donc de déplacer ta console et de reproduire ça à l'écran. L'écran est tactile, ça reste un jouet, à mon avis.
Ouais, voilà. Non, mais j'allais dire ça, voilà, ça reste un jouet, parce que bon, déjà le fait que ça soit des jeux intégrés. Enfin, je crois pas qu'il y a de port ou de cartouche ou tout comme ça.
À partir du moment où tu peux mettre, si, t'as un port USB, tu vas pouvoir mettre des cartes SD. Donc, à mon avis, à partir du moment où t'as ces possibilités-là, t'as forcément la possibilité de faire quelque chose avec cette console.
Oui, c'est vrai, ça m'était sorti de l'esprit sur le coup.
Ouais, en sachant aussi qu'elle a un appareil photo numérique, on peut filmer. Effectivement, pour le jeune public, c'est vraiment un
premier. Ça coûte que 100€ apparemment.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une console qui est vraiment quelque part un premier pas dans l'univers des consoles multimédia.
Je sais pas, c'est pour le jeune public. Est-ce que un gamin va dire je veux cette console là alors que pas persuadé que...
Moi quand je parle du jeune public, c'est le très jeune public. Je suis plus sur du entre 5 et 8 ans, tu vois.
5 et 8
je vais prendre mon exemple personnel. Mon fils 5 ans rêve d'une DS.
Ouais, bah voilà, il rêve d'une DS, il rêve pas d'une PSI
non d'une PDC Touch.
Mais PDC Touch, je crois pas que
même le nom est pourri en fait. Mais en fait, j'offrirais bien ça pour Noël parce que c'est moins cher et que
Ben voilà, on t'a.
Tu mets une DS, bon bah t'auras une PDC Touch. Et le gamin, toute sa vie comme ça. Papa, je veux un scooter. T'auras un Xiao. Non, pas du tout. Mais non, mais je la trouve vraiment pas mal. En fait, effectivement, les jeux intégrés, c'est pratique. Un gamin a pas besoin d'enlever, de remettre sa cartouche, donc il la perd pas. L'écran tactile, mon fils, effectivement, sur la DS, ce qui lui plaît, c'est de pouvoir utiliser le stylet, de bidouiller dessus. Ben là, tu peux. Non, elle a tout d'une grande. Moi, franchement, elle a tout d'une grande. Pourquoi pas? Pour un gamin, c'est très bien. Mais bon, apparemment, ça vous inspire pas plus que ça. Donc, on va
pas faire... c'est pas ça. C'est que il y a beaucoup de concurrence, en fait, dans ce domaine-là de portable avec qui fait un peu tout, multimédia, appareil photo, etc. Et qui sont beaucoup plus performants. J'ai vu pas mal d'articles d'autres consoles qui essayent un peu de rentrer dans le domaine de.
Oui, la Wiz notamment, la
GP2X. La Wiz, totalement. Ouais. Je les connais pas toutes, hein, mais.
Oui, mais là, par contre, ce sont des consoles qui sont chères, qui sont distribuées à petite échelle en France, qui n'ont pas une énorme. Les produits Videojet, ces jouets, en fait, se retrouvent vraiment. Ils vont avoir, par exemple, presque une page entière dans La Redoute. Toys R Us va leur consacrer de l'espace, en tout cas au niveau de la publicité. Donc, forcément, c'est des consoles qui se vendent. Je l'assimile pas mal à la V-Smile, moi, ce genre de console, vous voyez, les trucs.
D'accord, oui, effectivement.
Où t'as une manette aussi. En forme de pot de miel, tu vois, avec un Winnie énorme et des boutons qui font 4 cm de diamètre.
Ça, c'est assez appréciable auprès des jeunes joueurs. Quand je vais dans un Toys R Us, je vois tous les gamins avec leur V-Smile jouer. Voilà, jouer donc, Winnie Ourson.
Moi, j'ai eu aucun remords à en parler aujourd'hui sur Game Radio parce que finalement, c'est une console de jeu. Elle ne sert entre guillemets qu'à ça. Et moi, j'aurais eu ça il y a 20 ans ou même il y a 10 ans. C'était la classe, quoi.